Bonjour à tous. Moi, je travaille dans un lieu qui n'a pas de collection. Donc, en tant que futur conservateur, forcément, on est sur des enjeux un petit peu différents. Et je viens notamment vous parler d'une exposition qui s'appelle Bordeaux, passé, augmenté, avec comme sous-titre Permanence et mutation des espaces publics. C'est une exposition qui a eu lieu l'année dernière. Peut-être avant de vous en parler plus en détail, je voudrais juste vous rappelez, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, l'émission d'un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine que je vais appeler pour plus de simplicité un SIAP. L'idée donc, c'est tout simplement en fait de donner des clés de lecture pour comprendre la ville entière. J'aime bien dire, je suis personnellement médiatrice, que mon terrain de jeu, c'est la ville. C'est tout son patrimoine dans toutes ses dimensions. Donc ça va être le bâti, le patrimoine maritime, le patrimoine industriel, le patrimoine classique, le patrimoine paysager. Et l'idée, c'est de permettre, voilà, à tout un chacun, en priorité les habitants, mais bien sûr également les simples visiteurs et les nombreux touristes que nous accueillons à Bordeaux, d'avoir une porte d'entrée vers la ville, de leur donner, voilà, quelques éléments pour les guider ensuite dans leur découverte. Donc forcément, il y a une part subjective puisque c'est un lieu qui a 300 mètres carrés d'exposition, donc qui n'est pas énorme, qui au demeurant est très bien situé puisqu'il est situé place de la Bourse. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Bordeaux, Place de la Bourse est sur les quais, en plein centre-ville, où il y a énormément de passages. Donc, en soi, voilà, on a vraiment, ne serait-ce que par notre position géographique, ce lieu central et ensuite de diffusion. Donc, ce que je vous disais, donc c'est un lieu qui n'a absolument pas de collection. Un centre d'interprétation peut très bien accueillir des œuvres, objets, statuaires, etc. Mais ce n'est pas une obligation. Et à Bordeaux, il se trouve que il y a le musée d'Aquitaine qui est pourvu justement de tout ce corpus. Et donc, on va plutôt essayer de travailler en complémentarité avec eux, et nous de proposer une vision plus globale à l'échelle de la ville, un petit peu plus urbaine. On va essayer de faire le lien en fait entre le passé, le présent et le futur. Comment est-ce qu'on a hérité de tout ce patrimoine? Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Comment est-ce qu'on le fait évoluer pour qu'il continue à vivre sans nous empêcher de vivre et de faire évoluer la ville hors les murs. Et c'est vrai que du coup, cette citation de Serge Chaumier, moi je l'aime beaucoup parce qu'elle dit « il appelle hors les murs ». Et c'est exactement ça. Ce qui fait que, voilà, là je vous montre quelques images. Donc vous voyez, pas d'objets, par contre, des reproductions d'œuvres, des films, des systèmes de cartes aussi. On travaille beaucoup sur la cartographie également. Le dispositif qui était présenté juste avant, c'est un espèce de grand pont incliné. On voit toute l'évolution de la ville projetée sur un plan de la ville actuelle qui permet d'avoir des repères. Donc voilà, on est vraiment sur ce type de dispositif-là. Donc certains du numérique, mais pas que. Fort heureusement, on a également des maquettes en bois. Enfin, voilà, tout un tas de dispositifs que je vous invite à venir voir sur place, si jamais vous vous déplacez sur Bordeaux. Et c'est vrai que, bah, tous ces éléments qu'on traduit au sein de l'espace d'exposition, ils proviennent de plein d'acteurs. On fédère en fait pas mal d'acteurs. Le service patrimoine et monuments historiques, puisqu'on a une personne en charge de ces éléments au sein de la ville. Les archives municipales, qui sont maintenant devenues les archives métropole. La direction de l'aménagement et de l'urbanisme, pour tout ce qui va avoir un lien avec les projets en cours et à venir. Et puis, bah, la bibliothèque municipale qui dispose aussi d'un fonds ancien assez intéressant. Je ne les cite pas tous, il y a également les collectionneurs privés, les musées, bien évidemment. Et donc, nous, on recentre un petit peu certaines de leurs collections autour d'un propos qui est donc la ville, pour le redonner à comprendre aux habitants et aux différents visiteurs. Donc, j'ai envie de dire, nous, nos collections, c'est un petit peu tout ça, même si ce ne sont pas nos collections à nous, on essaye de se les approprier pour leur donner une certaine direction. Concernant l'exposition, c'est pour nous la première exposition qu'on ait réalisée, puisque nous avons ouvert il y a seulement 2 ans. Et c'est une exposition qui résulte en fait de trois facteurs, de trois institutions, donc Bordeaux Patrimoine Mondial que je représente aujourd'hui. On n'avait pas encore développé de politique d'exposition temporaire, tout se met en place progressivement, mais on avait déjà cette volonté-là, sans pour autant avoir de lieu dédié À cela, on a un lieu en plus de l'exposition permanente qui est un atelier pédagogique, mais on n'a pas d'espace disponible au sein de nos 300 mètres carrés d'exposition pour accueillir des expositions temporaires. Il y a également donc les archives qui ont fermé pendant un an pour déménager et en ont profité pour faire tout un travail de récollement et de traitement, qui souhaitaient garder une visibilité pendant toute cette année de fermeture, qui était quand même une temporalité assez longue. Et surtout, le studio De Rock, qui est un studio bordelais, qui a répondu à un appel à projet du ministère en 2014 sur les services numériques culturels innovants, qui s'est confronté à la réalité augmentée. Alors, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. L'idée, en fait, qu'ils ont eue, c'est de ne pas simplement faire de la pure 3D, mais c'est de développer tout un élément pour reconstruire une image. C'est-à-dire retrouver la profondeur au sein de l'image et permettre même une circulation dans cette image-là. Donc ils ont reconstruit certains éléments qui ne figurent pas sur la photographie. Et une fois qu'ils ont eu cette idée-là, eh bien, il leur fallait un support. Donc ils ont cherché au sein de Bordeaux qui pourrait accueillir justement ce nouveau logiciel. Et très vite, leur choix s'est porté sur les archives. Donc avec les archives, ils ont cherché différents dispositifs pour développer tout cela. Ils ont pensé à des affichages dans la ville, mais dans la mesure où on parle de numérique et de réalité augmentée, il fallait avoir une bonne visibilité, des affichages sous vitrine avec une luminosité plus que changeante allait rendre l'utilisation de l'application impossible. Depuis notre ouverture, on travaille vraiment main dans la main avec les archives. Donc au fil de discussion, le sujet s'est naturellement arrêté sur la possibilité d'un partenariat avec Bordeaux Patrimoine Mondial. On leur a dit, mais c'est vrai que nous n'avons pas d'espace d'exposition en tant que mètre carré. En revanche, nous avons la chance d'avoir de superbes baies vitrées en plein sur la place de la Bourse. Et donc, nos expositions se trouvent en hors les murs, en tout cas à l'extérieur sur les vitrines. Voilà, donc là, ça vous donne un peu un aperçu. On a en tout 13 grandes façades comme celle que vous voyez, ce qui permettait d'avoir en fait une exposition disponible 7 jours sur 7, H24, jour et nuit, de s'adresser du coup à tous. Et là se pose la question des visiteurs. Quand on monte une exposition, bien sûr, on se pose la question de qui on veut toucher, comment leur parler. Voilà. Nous, notre ambition, du coup, c'était de toucher à peu près tout le monde. Donc, l'idée, c'était d'avoir des images, des reproductions en très grand format qui fassent un véritable produit d'appel, de, malgré tout, délivrer du contenu sur ces éléments, et puis de pouvoir s'adresser à tout un chacun, y compris de simples passants, que les habitants puissent aussi, eux, se repérer. Donc, là, on ne le voit pas sur ces éléments-là, mais à chaque fois, on avait mis une petite carte qui resituait l'endroit où c'est actuellement, et un court texte, alors extrêmement court parce qu'on n'est pas du tout dans la situation où on a des visiteurs qui viennent spécifiquement voir une exposition. On est tout récent, on a beaucoup de travail à faire sur notre communication, et donc les gens, on commence à en avoir aujourd'hui qui viennent parce qu'ils ont vu l'information de cette exposition-là, mais on touche avant tout du simple passant. Donc ils ne vont pas suivre un propos linéaire, ils vont parfois commencer complètement au milieu de l'exposition sans voir le texte d'introduction, donc il faut que ce soit quelque chose qui soit relativement immédiat, mais que pour autant, s'ils veulent l'apprendre dans un ordre qui, nous, on l'a conçu comme étant malgré tout un ordre logique, il y ait voilà, cette progression. Donc là, on avait choisi la thématique des espaces publics parce qu'au final, c'est quelque chose qui touche tout le monde. Donc on a voulu prendre des éléments voilà, assez représentatifs, assez repérables au sein de la ville. Et donc on a fait cette sélection. C'est un co-commissariat en fait avec les archives municipales à l'époque. On a vraiment fait la sélection ensemble. La rédaction des textes aussi était partagée. Et bien sûr, les questions techniques ont été soulevées parce que parfois on avait des envies d'images, mais qui au final, avec l'application, n'allaient rien rendre. Le principe du logiciel développé par le studio De Rock n'allait apporter aucune plus-value et donc ça les fait aller tomber complètement à l'eau. Donc ça a vraiment été une action à trois qui s'est montée autour de cette exposition-là. Là où on est assez content, c'est qu'au final, On se dit souvent le numérique, on en parle beaucoup, on a parfois certaines réticences, parfois un énorme enthousiasme parce que c'est dans l'air du temps, le numérique, c'est très très demandé, y compris par nos collectivités, mais il faut pour autant que l'utilisation en soit pertinente. Et très souvent on se dit le numérique c'est bien, mais au final chacun va avoir le nez fiché sur sa tablette, sur son téléphone, et il ne va pas y avoir de communication entre les uns et les autres. Et là, au final, c'est l'inverse qui s'est passé parce que tout le monde n'a pas de tablette, tout le monde n'a pas de smartphone. Moi, personnellement, j'en suis équipée depuis un mois et je ne peux même pas télécharger l'application sur mon smartphone parce que c'est un Windows Phone. Donc, au final, voilà, on partage les écrans, on échange et du coup, voilà, il y a vraiment des échanges qu'on a vus se produire devant les vitrines. Ce qui était rigolo, c'est qu'on avait à la fois des gens qui venaient avec l'application et d'autres qui venaient simplement pour voir les images en grand, parce qu'au final, des images d'archives, ce n'était pas facilement communicable, il fallait la démarche d'y aller. Tous ne sont pas communicables, tout simplement. Et puis souvent, ce sont des tout petits formats. Donc pour voir les détails, c'est parfois un petit peu compliqué. Et là, cette reproduction a permis à tous de voir vraiment tous ces détails-là. Donc très souvent, on entendait, nous de l'autre côté, on a nos bureaux aussi, et on entendait les gens toquer sur la vitre. Très vite, on s'est fait à ce bruit de fond, mais ça nous montrait aussi voilà, à quel point les gens ont plongé dans cette image, même sans forcément cette application que je vais vous montrer par la suite. Justement, ce que je vous propose, c'est peut-être de faire la démonstration, parce que là, je peux vous en parler, mais le mieux, c'est encore que vous la voyez de vous-même. Enfin, donc, en fait, il suffit de lancer l'application, et alors normalement, il y a du son, tout n'en avait pas. Et en fait, du coup, vous plongez donc en 3D dans cette image, et vous pouvez tourner autour. C'est-à-dire qu'en fait, le studio de Rock a même inventé certains personnages dont on devinait à peine la tête, pour vraiment qu'on ait cette sensation de plongée. L'idée, c'était aussi justement de pouvoir donner du contenu supplémentaire que le simple petit texte qui était proposé à l'extérieur. Et donc, la collaboration a aussi permis au studio de Rock de développer de nouvelles fonctionnalités au sein de leur logiciel, puisqu'on leur a dit, mais est-ce qu'on ne peut pas donner des informations supplémentaires à partir de certains points d'intérêt ? Donc, on a comme ça...
Il faut que je bouge ?
Non, justement, c'est moi qui bouge.
D'accord.
On a également demandé à ce qu'ils puissent développer aussi la possibilité d'intégrer des photos dans ces petites vignettes pour que les visiteurs puissent se rendre compte à quel point la place a changé ou parfois à quel point on peut retrouver des bâtiments. Donc ici, on retrouve notre bâtiment avec le petit clocheton en haut à gauche, mais pour autant, on n'a absolument plus les hangars, les piétons, on a le tramway qui passe désormais. J'essaie de vous montrer d'autres exemples. Donc le son n'a pas l'air de marcher, mais normalement sur celle-ci, il y en avait bien. Et donc là, voilà, on avance, on rentre vraiment dans le chantier. Là, c'était le percement de bassins à flot au niveau du port. Et on peut complètement aller à la rencontre des ouvriers. Alors ils ont, par endroits, reconstitué des pelles, des sacs de pierre qui étaient retirés, et toujours les petits contenus textuels qui viennent s'y rajouter. Donc là, par exemple, c'est un bon exemple aussi de l'intérêt de cet agrandissement. Là-haut, sur les coteaux, c'est un détail que même les archivistes, qui connaissent pourtant très très bien leur fond, n'avaient pas distingué. On voit en fait l'autre côté de la Garonne et à quoi ressemblait la rive droite de la Garonne à cette époque-là. Donc on se dit, mais il faut complètement exploiter ça. Donc on a eu envie de donner ce petit contenu supplémentaire. Et puis peut-être une dernière image. Il y en a 13 au total. Je vais pas tous vous les passer. Ce principe de reconstruction de l'image n'existait pas du tout. C'est ce qui les a poussés. Et eux, voilà, l'intérêt qu'ils y voyaient, c'était justement de pouvoir développer ce nouveau principe-là. Ce qui pour nous était également intéressant, parce qu'en fait, on leur a servi de terrain d'étude et de cobaye, ce qui fait que ça ne nous a pas coûté un centime. Ce qui, quand on est en collectivité territoriale, est quelque chose de très précieux. Pour vous donner une idée du budget, on va être très très loin des 60 000 euros pour la communication annoncée ce matin. On va enlever quelques zéros, on tombe à 600 euros pour la réalisation de tout ça. Du côté de la collectivité, j'entends. Nous, on a eu simplement à payer les matériaux, les adhésifs, pour aller sur les vitres. L'impression, la pose, c'est faite en interne. Donc on n'avait pas un prestataire à payer. Et au final, le studio de rock, en ayant répondu à cet appel à projet, c'est le ministère qui a permis de le financer. Alors bien sûr, du coup, ça implique aussi des petits tests, puisque tout ce développement a pris du temps. Chaque travail sur une image, donc il y en avait 13, leur prend un mois de développement. Et on leur demandait de rajouter des pastilles, de rajouter des photos. Donc ça a été un petit peu long pour eux, ce qui fait qu'on a été prêt pour l'inauguration en juin, seulement sur la version Apple. Or aujourd'hui, il y a plus de 60% des gens qui ont une technologie Android, et la technologie Android a nécessité d'autres développements, ce qui fait que ce n'est arrivé seulement en juillet, la partie Android. Il faut s'attendre à ce genre de choses, mais malgré tout, pour nous, c'était une expérience extrêmement extrêmement satisfaisante. On a également travaillé avec les musées. C'était une volonté du studio de rock aussi de pouvoir le présenter en situation dans les musées de la ville. Donc chaque musée avait une de ses œuvres qui était traitée dans la mesure du possible en restant sur ce thème. Ça a été le cas pour deux des trois musées. C'est une application qui est encore valable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les gens ont l'application sur leur smartphone ou leur tablette, ils viennent dans le musée, dans la mesure où l'œuvre est une œuvre accrochée dans l'espace permanent, ils peuvent en bénéficier. Le retour sur la partie musée a été compliqué en fait à mesurer parce que ce n'était pas inclus dans leur programmation globale. Ça a été un petit peu du bonus et au niveau des équipes dans les salles, des médiateurs, et des gardiens, l'information a eu un petit peu de mal à redescendre. Donc, je pense que aujourd'hui, on essaierait de s'y prendre différemment, plus en amont. Mais comme je vous l'expliquais, c'était aussi un projet qui se développait complètement, une technologie qui se développait. Donc avant de se lancer vraiment dedans, il a fallu aussi que nous, l'exposition, puisse faire ses preuves. Alors malgré tout, les évaluations, si on n'a pas pu les mener dans les musées, on en a mené avec le réseau Ville d'Art et d'Histoire, l'Association nationale Ville et Pays d'Art et d'Histoire, avec une chercheuse qui est venue sur site à plusieurs reprises lors des journées du patrimoine, également en simple journée, en week-end, pendant les vacances, pour observer et interroger justement les visiteurs. Donc on a eu des retours extrêmement extrêmement positifs. Le son que malheureusement vous n'avez pas pu entendre et la profondeur étaient les deux premiers facteurs qui faisaient que les gens vraiment avaient l'impression de remonter dans le passé et de plonger dans l'image. Les gens ne s'attendaient pas forcément à trouver de l'information supplémentaire. Donc ça a été également une valeur ajoutée qu'ils ont largement appréciée, même si étrangement, un bon vieux cartel, finalement, on se rend compte que les gens ils sont très très attachés. On aurait très bien pu aussi avoir le texte à côté. C'était assez rigolo du coup d'avoir ce côté-là. On essaye à chaque fois de réinventer de nouvelles formes, et au final, le cartel est ce à quoi on revient toujours. Un autre élément qui est ressorti, qui est assez intéressant, c'est les tranches d'âge. On dit beaucoup que les nouvelles technologies, on veut attirer des jeunes publics, plus jeunes. Au final, les moins de 20 ans ont été largement minoritaires. Et on se retrouve plutôt, alors c'est une tranche d'âge qui est assez large, 20-40 ans, mais qui forme quand même 67% des personnes qui ont été observées et interrogées. Il faut aussi relativiser cet attrait du numérique pour les plus jeunes. Certes, ils en ont un, mais malgré tout, ce n'est pas juste le numérique qui va les faire venir à la culture, il faut trouver aussi d'autres formes. Et il y a quand même 30% qui auraient souhaité avoir une médiation humaine en plus, ce qui pour moi en tant que médiatrice est quelque chose de relativement satisfaisant. Heureusement que cette médiation humaine est encore demandée. Et ce qui est intéressant, je participais la semaine dernière à une table ronde justement sur le numérique et les pratiques culturelles. Et dans les nouveaux projets aussi qui émergent, il y a cette composante, en tout cas cette interaction entre le numérique et la médiation humaine qui sont pensées dès la base et la conception justement des applications. Et je pense qu'effectivement, en allant vers ce type de modèle-là, on arrive à avoir quelque chose de beaucoup plus complet autour d'une exposition. Voilà, le numérique, effectivement, ça nous apporte énormément de choses. Ça nous a vraiment permis de redécouvrir certains aspects de l'image. Après, nous, dans les choses, peut-être, j'ai envie de dire presque les conseils, dès lors qu'on touche au numérique, on touche au Wi-Fi. Alors, le musée Bonnard a développé son réseau Wi-Fi. Nous n'avons pas encore... Pas sans peine, voilà. Nous n'avons pas encore lancé ce chantier-là. Donc, on était sur le réseau Wi-Fi public. Et donc, selon les heures, il était plus ou moins facile de télécharger l'application. Dès lors qu'on monte ce genre de projet, il faut penser à ce genre de barrières, toujours prévoir un backup en ayant des tablettes à mettre à disposition des publics qui ne seraient pas équipés, qui ne pourraient pas télécharger parce que le réseau est complètement saturé. Pensez aussi à signaler la présence de cette possibilité technique qui est mise à disposition du public. Ça paraît enfoncer des portes ouvertes, mais on a parfois la tête dans le guidon, on se dit que ça va assez de soi quand on le cite dans le panneau d'introduction, dans un espace comme le nôtre, où les gens peuvent prendre l'exposition par n'importe quel bout. On s'est très très vite rendu compte qu'il fallait adjoindre un petit élément supplémentaire sur chacune des images pour signaler qu'il y avait cette application en plus. Dès lors, on a vu une vraie différence à ce niveau-là. Et puis, garder du temps le plus long possible pour faire les tests, je vous le disais. Nous, le temps de développer la version Android, ça a été beaucoup plus compliqué que prévu. C'est aussi les frais à payer d'une application qui est toute nouvelle et qui se développe. Mais c'est vrai qu'on ne garde jamais assez de temps pour tester ces éléments-là. Nous, concrètement, on a travaillé pendant 7 à 8 mois sur cette exposition. Bien sûr, on n'a pas la question des frais et des temps pour négocier les prêts, le transport, etc. Mais il y avait tout ce temps de développement qui était quand même assez considérable. Donc voilà, pour les petites pistes, si jamais ce sont des dispositifs auxquels vous serez confrontés plus tard, des choses qui sont juste du bon sens, mais à garder en tête, bien sûr. Voilà. Je vous remercie.